J'ai mis pas le son de sortie, c'est la pause à midi. C'est ludique, les jeux c'est magique.
Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Ludique les amis, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous en avez profité pour jouer. Morgane, elle en a certainement profité, elle va nous en parler dans un instant pour ses soirées-jeux. Mais au menu aujourd'hui, c'est Bravest, un jeu de Maxime Rambourg et Théo Rivière, illustré par Eya pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans et édité par Labo Ludique. Alors dans Bravest, vous allez devoir construire deux chemins pour vos deux braves. Le but est de faire un maximum de points en empruntant les chemins à la fin du jeu. Pour faire des points, il faut par exemple croiser des mages ou encore des tourmentés, voire même emprunter un cercle de lave. Alors au niveau du matériel, afin qu'il tienne dans une petite boîte, nos calats d'ailleurs vous remercient, votre plateau sera un puzzle en deux parties composé de 16 cases avec un départ pour vos deux braves. Même chose pour le plateau central, un puzzle de pièces qui lui est circulaire et tout autour on posera 12 tuiles chemin. Vous posez les 3 jetons sélecteurs de tuiles à l'emplacement indiqué sur le plateau central et vous êtes prêt à jouer. Mais alors comment on joue ? À votre tour, vous allez choisir une des 3 tuiles indiquées par le sélecteur. La tuile que vous avez choisie, vous la placez sur votre plateau île afin de construire votre chemin. Alors attention, la tuile doit être placée près du camp de l'un de vos deux braves, l'agile ou l'invincible. Les tuiles suivantes devront être adjacentes. Vous n'êtes pas obligé de lier les deux chemins de vos braves, mais parfois ça peut être aussi très utile. Si vous êtes bloqué, vous avez la possibilité de retourner la tuile. Dans ce cas, vous avez un chemin en croix qui vous donne donc 4 accès possibles. Une fois la tuile posée sur votre île, vous déplacez le sélecteur d'une case et vous remplacez la tuile que vous avez prise par une de la pioche. Mais le joueur suivant ne pourra pas la choisir car il doit prendre une tuile indiquée par le jeton sélecteur. Alors choisissez bien vos tuiles car c'est elles qui vont vous donner un certain nombre de points de prestige. On joue à tour de rôle et quand tous les joueurs ont rempli leur plateau île, ce qui fait 16 tours, il est temps de déplacer vos braves sur les chemins pour faire les épreuves. Alors sur les tuiles chemin, vous allez trouver pas mal de choses. L'agile n'aura pas les mêmes épreuves que l'invincible, mais rien ne les empêchera de prendre le même chemin. Par exemple, si l'agile croise une clé mort sur son chemin, il gagne 3 points de prestige. S'il en croise 2, forcément c'est 6 points. L'invincible, lui, gagnera 3 points s'il croise un mage. Vous avez 3 épreuves par brave. Et vous avez 2 côtés de plateau, côté jour et côté nuit. Un petit peu plus joueur, le côté nuit, avec des épreuves différentes. Certaines tuiles que vous avez récupérées sont spéciales. Ils donneront par exemple des points à l'invincible, mais en feront perdre à l'agile. À vous de bien réaliser vos parcours. Et afin de vous aider dans le calcul, il suffit de retourner le plateau central, c'est super pratique. Celui qui a le plus de points le remporte le titre de légende de l'archipel. Alors ce que j'en pense de Bravest, c'est un jeu familial où il ne faut pas prendre de décision à la légère car une fois la tuile posée, elle ne peut plus être déplacée. Ce qui est original dans ce jeu, c'est la construction de 2 chemins. Une chose est sûre, si vous voulez l'emporter, il faudra bien optimiser vos tuiles. Dernière chose, la DA est vraiment magnifique avec cet univers fantastique. Alors Labo Ludique nous propose un autre petit jeu en ce printemps. Oui, il faut être rapide avec Battleflip, un jeu de Ségolène et Jean-Paul Monet illustré par Niark. Alors Battleflip existe en 3 boîtes, je vais vous parler de la version animale, mais il y en a plusieurs. Battleflip, ce sont 44 cartes triangulaires, recto verso, composées de 3 animaux. Enfin plutôt de 2 mi-animaux parmi le singe, la grenouille, le tigre ou le panda. Le but, vous l'avez compris, est de recomposer les animaux, mais sans faire de décalage dans les triangles. Et ça, c'est pas si évident. À vous de tourner les cartes ou de les retourner afin de trouver les 2 bonnes moitiés de l'un des animaux. Mais alors comment on joue ? Vous aurez plusieurs défis, de la simple battle à la triante battle en passant par la double battle, multi battle et puzzle battle. Une chose est sûre, Battleflip est un jeu frénétique où il faut être le plus rapide à assembler ses animaux. Alors pour la simple battle, il faudra reconstituer 4 animaux, mais en jouant avec 2 cartes uniquement à la fois. À chaque fois que vous en avez validé un, vous repiochez des cartes. La double battle, chaque joueur a 5 cartes et doit reconstituer 2 fois le même animal. Pour la multi-battle, vous avez 6 cartes, à vous d'arriver à en connecter 5. Le puzzle battle, là on a toujours 6 cartes, on pose une carte au centre et on joue tous sur le même puzzle. Et enfin, le triangle battle, il faut reconstituer un triangle avec 4 cartes. Les cartes ont des symboles, vous en recevez une, mais à vous, vous devez trouver les 3 autres avec le même symbole avant de commencer votre puzzle. Vous allez voir, c'est un petit peu la bagarre. Si vous aimez les jeux frénétiques un petit peu casse-tête, vous pouvez vous laisser tenter donc par ce Battleflip. Voilà donc Battleflip et Bravest qui viennent de sortir chez Labo Ludique. D'ici quelques instants, on va retrouver donc Morgane pour Soirée Jeux. Et désormais le lundi, on retrouve Morgane du Carnet des Geekeries pour Soirée Jeux. Salut Morgane.
Salut.
Comment ça va depuis vendredi ?
Bah ça va, Ben ça va.
Ça va. Bon alors désormais.
Ça fait pas longtemps.
Voilà. Désormais on te retrouvera plus le vendredi, mais le lundi pour soirée jeu. Alors justement, qu'est-ce que tu as fait de beau ce week-end? Je suppose que tu as joué.
J'ai un peu joué, ouais. Donc du coup, on va parler de 4 jeux aujourd'hui.
Ouais.
On va commencer avec Corinthe. Corinthe, c'est un de mes chouchous.
Ça. Ah ouais.
Ouais, quand je l'ai découvert à Cannes, alors ça date de 2019, c'est pas non plus si vieux que ça.
Ah oui, c'est vrai.
Mais voilà, c'est vrai que oui, je l'ai découvert à Cannes et c'était un de mes chouchous sur cette édition. On est sur un Roll and White du coup de Sébastien Pochon qui est illustré par Julio César et ça a été édité chez Days of Wonder. Et en fait, dans ce jeu, on va tenter de devenir le meilleur marchand de Corinthe en vendant les marchandises aux meilleures boutiques du port et en construisant des bâtiments. Donc pour ça, on va tous avoir une feuille de jeu devant nous et en fait, on va jouer avec 9 dés blancs et il y aura aussi des dés jaunes qui seront un peu plus spéciaux et qui seront spécifiquement pour le premier joueur à chaque fois.
Mmh.
Le premier joueur va donc lancer les 9 dés et en fait on va les placer ensuite sur un plateau de jeu central en fonction de leur valeur. Donc sur ce plateau on va avoir les différentes boutiques du port, mais on aura aussi une zone avec des pièces d'or et une autre avec des chèvres. Donc en fait on va placer les dés lancés avec la plus haute valeur sur la case des pièces d'or qui est tout en haut. Et ensuite, on va repartir par les chèvres, donc de tout en bas, et on va remonter une à une avec les autres valeurs, toujours dans l'ordre croissant. Donc il y a 6 zones, donc en fait, si on fait pas les 6 valeurs différentes dans notre lancée, et ben il y aura des zones qui seront vides pour cette manche. Et ensuite, en fait, chaque joueur, l'un après l'autre, va récupérer les dés d'une valeur dans une zone et il va aller les marquer sur sa feuille de score. Donc si, par exemple, je prends 3 dés dans la zone du marchand violet, j'irai entourer sur ma feuille 3 marchandises violettes. Donc en fait, chez les marchands, on a plusieurs comptoirs et pour avoir les points bonus, il faudra les remplir pour récupérer les petits points qui sont au-dessus. Et ça sera pareil pour cocher les chèvres et les pièces d'or. C'est toujours en fonction du nombre de dés. Donc par contre, les chèvres et les pièces, c'est elles qui vont nous servir à construire des bâtiments. Donc il y en a 4 et chacun aura son petit avantage différent, comme nous faire avoir de l'or en plus ou des marchandises supplémentaires à chaque fois qu'on choisira cette façon de jouer. Dernière possibilité avec les dés, c'est de déplacer l'intendant qui possède sa petite zone sur notre fiche. Donc à la place de recevoir des marchandises ou des pièces, on peut utiliser la valeur du dé pour déplacer notre intendant et ça va nous octroyer des bonus pendant la partie. C'est pas négligeable. Et en fait, en fonction du nombre de joueurs, on va enchaîner 16 ou 18 tours de cette façon pour mettre fin à la partie. Perso, j'adore les Roll and White, donc pour le coup, celui-ci m'avait marqué par son côté intuitif. En fait, quand tu vois la feuille de jeu, tu comprends quasiment immédiatement toutes les zones, ce que tu dois faire. On a un côté dilemme en fait qui s'installe rapidement sur notre choix de dés parce qu'on sait qu'on ne peut pas tout prendre à notre premier tour, donc on va forcément devoir laisser des choses aux autres. Au final, ça reste fluide, c'est accessible, tu peux même y jouer facilement avec les plus jeunes. Ça faisait un petit moment que j'avais pas joué, tu vois, quand je l'ai ressorti, mais c'est vrai que retrouver ce côté stratégique à se dire est-ce qu'on laisse telle ou telle marchandise de côté pour avancer son intendant ou est-ce qu'on prend plutôt des pièces d'or pour faire nos bâtiments. En fait, c'est le genre de jeu où tu dois pas trop t'étaler pour essayer d'optimiser au mieux ta fiche. Enfin, c'est vrai que les premières parties, je me souviens, je m'étalais de partout sur la feuille et en fait je faisais pas de points parce que du coup je faisais de tout et en fait tu peux pas, donc comme souvent dans les Roll and White il y a peu d'interactions, même si là on fera aussi en sorte d'empêcher les autres joueurs de prendre les dés qui leur feraient avoir des bonus quand ils finissent des zones. J'ai toujours plaisir à y jouer, j'y joue pas assez souvent à mon goût, mais c'est vrai qu'il reste toujours agréable et pour moi c'est devenu un peu un classique du genre.
Moi je m'en rappelle, Corinthe, c'était un des premiers Roll and White que j'avais présenté dans C'est Ludique en 2019 justement. Et avec Welcome, bien sûr.
Voilà. Oui, forcément.
Oui. Autre jeu.
On continue avec Century, la route des épices. Comme son nom l'indique, je vais vous emmener sur la route des épices et ses marchés colorés. Voilà. Ce Century, c'est le premier d'une gamme entière qui a été créée par Emerson Matsushi. Celui-là, il a été illustré par Fernanda Suarez et c'est sorti en 2017 chez Plan B Games. En fait, on incarne des marchands et on va... c'est encore comme Corinthe, hein, on incarne des marchands. Je suis peut-être dans un thème aujourd'hui.
Ah, peut-être.
Et on va du coup chercher à collecter et à troquer nos épices pour marquer le plus de points possible. Et pour ça, on va avoir des cartes en main, d'autres qu'on va pouvoir récupérer sur un marché qui vont nous permettre de collecter des épices pour ensuite réaliser des objectifs. Donc on va tous partir avec une main de 2 cartes de départ identiques et en fait à chaque tour, on va pouvoir en jouer une, soit pour récupérer des cubes qui représentent les épices, soit en améliorer certaines, donc changer leur couleur, ou les échanger contre d'autres. On est dans un système permanent en fait où nos épices vont sans cesse bouger tout le temps. D'ailleurs, on peut en avoir que 10 devant nous, donc on va pas pouvoir faire que les collecter non plus. À un moment, il va falloir les rendre quand même.
Mais oui.
Autre possibilité, on peut récupérer un marchand sur le marché. Donc si on prend le premier, il est gratuit. Par contre, si on décide d'en prendre un autre qui est plus loin, on devra déposer une épice sur chaque carte qui le sépare du début du marché. jusqu'à la carte qu'on veut prendre. Et comme les cubes, ils restent dessus, un joueur peut être amené à récupérer à la fois une carte marchand et des épices en prime. Donc voilà, faut faire quand même gaffe à ce qu'on veut récupérer. Dès qu'on a les ressources nécessaires pour réaliser un objectif, on peut le récupérer en défaussant les ressources qui ont été demandées. Et en fait, je vais y arriver. Enfin, dernière possibilité d'action.
C'est pas grave.
Se reposer. J'en ai peut-être besoin de me reposer aussi.
Eh ben, peut-être.
Pour récupérer l'ensemble de nos cartes jouées en main. Parce qu'en fait, quand on les joue, on va pas pouvoir les récupérer tout de suite. Donc, il va falloir qu'on fasse l'action de se reposer pour tout récupérer. Et c'est là, en fait, qu'on découvre la subtilité du jeu, parce que t'as de la gestion de ressources, t'as du deck building, et il y a cette action de repos qui est pas forcément bénéfique, donc on va essayer de la faire le moins souvent possible, parce qu'on sait que c'est un peu une action dans le vent, parce qu'on fera rien d'autre que récupérer nos cartes à ce tour-là. Et en fait, les trocs, les récupérations d'épices, de marchands, ça va s'enchaîner jusqu'à ce qu'un joueur réalise 5 objectifs. Mais comme les cartes objectifs, elles ont pas toutes les mêmes valeurs en fonction des épices qu'elles demandent, c'est pas obligatoirement le joueur qui va mettre fin à la partie qui va l'emporter.
Ouais.
Donc là aussi, on a un petit côté stratégique non négligeable, parce que tu peux décider de prendre ton temps pour faire les plus gros objectifs et réussir à l'emporter quand même si toi t'en as que 3 ou 4 et que y a un joueur qui en a 6. En fait, quand on joue à ce jeu, on a des bonnes sensations à la Splendor. Entre récolte de ressources, réalisation d'objectifs, les règles, elles sont simples, c'est vraiment un jeu familial. Mais derrière, ça reste quand même profond, c'est quand même abstrait, parce que clairement, le thème, au bout de 5-10 minutes, tu l'oublies. Tu fais pas des épices, t'as pas l'impression de faire des épices. Mais t'as quand même l'impression de faire ton petit troc, de troquer tes cubes contre d'autres.
Et
en fait, t'as vraiment toutes les mécaniques qui s'imbriquent bien ensemble, c'est fluide, on enchaîne les tours. Enfin, moi, je le trouve hyper agréable à jouer. Pour le coup, celui-là, il provient d'une trilogie de 3 jeux. Donc, il y a eu 3 jeux Century sur ce thème.
Ouais.
Et après, on a également eu la trilogie Golem. Donc, moi, j'en ai un de cette gamme-là. Et là, on retrouve plutôt des diamants, mais on a toujours des mécaniques très proches aussi. Et en fait, dans chacun de ces jeux, t'as la montée en puissance qui se fait petit à petit au fur et à mesure où t'améliores tes cartes. Donc, c'est hyper satisfaisant. Donc, si vous connaissez pas la gamme, je vous conseille vraiment de vous y intéresser, parce que pour moi, c'est vraiment une similitude à la Splendor qui fait qu'on peut entraîner des nouveaux joueurs avec ce jeu sans problème. Quoi.
Très bien. Donc, Century, après Corinthe, on a quoi ?
Et après, on a Marvel Remix. Marvel Remix, c'est un jeu de Bruce Glasgow qui est sorti chez Don't Panic Games en 2023.
Ouais.
Pour ceux qui connaissent, on est sur une refonte du célèbre Fantasy Realms. Mmh. Donc pour le coup, Fantasy Realms, c'est un de mes jeux chouchous de tous les temps.
Je pense que c'est un jeu de chouchou de tout le monde, Fantasy Realms.
Voilà, de beaucoup en tout cas. Alors forcément, moi j'avais un peu d'appréhension en essayant la refonte sous licence Marvel. Donc dans Marvel Remix, le but principal, c'est d'optimiser au mieux sa main de 7 cartes. Et en fait, pour ça, à chaque tour, on va piocher une carte, en défausser une autre. Parfois, on va en échanger une avec une autre qui est visible. Bref, là, en fait, c'est vraiment les règles principales de comment on y joue. C'est hyper simple à jouer. Mais heureusement, c'est plus subtil que ça. En fait, toutes les cartes, elles ont une façon de scorer qui est différente. Et parmi ces cartes, on retrouve des héros, des alliés, des lieux, des objets et même des vilains qu'on va devoir affronter au final. Donc, on aura aussi différents symboles sur chaque carte. L'univers Marvel est bien présent, parce que c'est vraiment les personnages Marvel. Sur chaque carte, en fait, on va avoir une indication de son scoring. Donc, par exemple, si j'ai une carte dans ma main qui peut me rapporter 10 points, à condition que je n'ai pas tel ou tel symbole dans ma main de carte à la fin de la partie. Donc, à un moment donné, chaque carte sera forcément dépendante d'une autre carte, parce que c'est ça qui va te permettre de scorer. Donc tout ça, ça reste identique à Fantasy Realms, et pour le coup, les petits twists qui changent le jeu, ils interviennent principalement sur 2 points. T'as déjà des cartes qu'on peut transformer en fin de partie, donc on les retourne si on a certains symboles, si on fait leurs conditions, et donc elles seront plus fortes. Mais on a aussi le fait qu'à la fin de la partie, il faut avoir au minimum un héros ou un allié, mais surtout un vilain obligatoirement dans sa main,
oui.
Sinon on ne score absolument rien. Du tout. Et ça change la donne, parce que les vilains, c'est pas des cartes sympathiques. Donc si on les fait pas, on a des points négatifs. Pour le coup, c'est difficile pour moi de te dire que c'est pas un bon jeu, parce que j'adore déjà celui d'origine avec Fantasy Realms. Et c'est vrai que la mécanique d'optimisation de main de cartes qu'on retrouve dans ces jeux, moi j'adore, parce qu'en fait on change sans cesse de cartes. On pense réussir à faire un bon score, et d'un coup t'as une carte qui va tout changer, tant au niveau de la stratégie, que ta réflexion, que de ta main. C'est un micmac sans cesse, vraiment. Mais en fait, c'est vrai qu'à chaque partie, j'ai l'impression de le redécouvrir, parce que je joue différemment. C'est hyper agréable, et ça peut être aussi très frustrant quand même de pas réussir à faire tout ce qu'on veut, parce qu'en fait dans une partie tu cherches à faire plein de combos.
C'est ça, et puis des fois on va te dire il te faut telle carte pour avoir 60 points, alors tu vas te dire je vais tenter, mais avant de la trouver cette carte, des fois tu es obligé de détruire ton jeu pour refaire autrement, quoi.
C'est ça, puis en fait ça joue vite, donc des fois t'as même pas le temps de refaire ta main, que les autres joueurs ils ont mis fin à la partie, et t'as bon bah ma main elle va pas scorer grand chose, donc voilà, il y a quand même un gros prix, enfin une grosse prise de risque dedans, mais ouais, c'est un jeu que j'adore, tant dans sa version Fantasy Realms que Marvel Remix.
En plus il y a la version Deluxe qui est sortie de Fantasy Realms. Très bien, c'est tout pour aujourd'hui Morgane.
J'ai deux petits jeux casse-tête en plus à parler, mais ça va aller très vite.
Allons-y.
Je les ai découverts à Cannes, alors c'est des petits jeux casse-tête solo, mais même si c'est du jeu solo, fallait quand même que je vous en parle. Ces deux jeux, c'est Happy Camper et Carte au Trésor. C'est sorti tout récemment chez Wilson Jeux.
Ouais.
Et derrière ces jeux, en fait, on a du casse-tête façon nonogramme. Je sais pas si tu connais le nonogramme.
Pas du tout.
Mais en fait, c'est des casse-têtes. Alors, c'est principalement à la base sur application mobile. C'est des grilles, en fait, où tu dois colorier certaines cases. Et d'autres que tu dois laisser blanches en fonction des indications qui sont chiffrées sur les lignes et les colonnes autour, en fait, pour voir une image apparaître à la fin.
D'accord.
Donc, perso, j'adore ça. C'est vraiment hyper casse-tête. Et ben là, en fait, on a le même principe. Sauf que dans Happy Camper, et ben, on a des vannes à placer près des feux de camp, donc sur notre fiche, et en fonction du nombre, pareil, qui sont indiqués sur les côtés. Et dans Carte au Trésor, on va devoir faire des chemins qui passent dans un certain nombre de cases selon les indications aussi pour aller jusqu'au trésor. Donc, c'est très casse-tête, hein, mais pour le coup, c'est 40 niveaux différents qui sont disponibles sous des petites fiches effaçables, donc c'est progressif, tu commences avec 10 niveaux faciles, ensuite t'as les moyens, les difficiles, donc ça, il y aura forcément de moins en moins d'infos. Pour le coup, j'ai adoré l'expérience d'Happy Camper, je suis encore dans celle de Carte au Trésor, qui est clairement plus complexe pour mon cerveau, hein. Même en niveau facile, je galère. Mais en fait, retrouver cette sensation du casse-tête en version physique et pas sur smartphone, c'est hyper agréable. Donc il y a d'autres jeux dans la gamme qui sont prévus, hein. En fait, c'est le genre de petit jeu que tu sors hyper facilement, tu veux faire un ou deux petits niveaux, tu les fais, ça peut s'emmener partout, dans le train, dans l'avion.
C'est ça.
Voilà, c'est hyper hyper pratique et je suis vraiment contente qu'ils les aient sortis en version papier entre guillemets. Enfin voilà, ça reste des petites fiches effaçables, hein. Mais ça t'enlève le côté smartphone et ça permet aux gens qui aiment ce genre de cassette d'y aller franco.
Très bien. Eh ben merci beaucoup Morgane. On se retrouve lundi prochain.
Oui, ça marche. Bonne semaine.
Bonne semaine et à lundi. Salut.
À lundi, salut.
Voilà les amis, c'est ludique, c'est terminé. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro. Salut, bonne journée.